Et bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI. Il est donc 12h30 dans Universel, 13h30 ici à Paris.
Afrique Midi.
Toute l'actualité africaine avec vous, Victor Moria, bonjour.
Bonjour Charlotte Hidrag, bonjour à toutes et à tous. Les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo. Rebelles du M23 et milices pro-gouvernementales Wazalendo s'affrontent dans le territoire de Lubero. Pendant ce temps, les négociations entre Kinshasa et Kigali continuent sous l'égide de l'Angola. Vous entendrez ensuite la déception du négociateur congolais à la COP16 biodiversité de Cali en Colombie. Les débats se sont achevés brutalement hier matin, sans accord. Et puis, les massacres de civils au Soudan indignent le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. 12 personnes ont encore été tuées par les paramilitaires hier dans l'ouest du pays. Et enfin, demain, il sera trop tard pour déposer les candidatures. Mais les élections législatives tchadiennes n'attirent pas les candidats aux grandes dames de la société civile. Des combats sont en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 ont attaqué l'agglomération de Kamandiji dans le territoire de Lubero, au nord Kivu. Les Wazalendo, miliciens pro-gouvernementaux, n'ont pas réussi à tenir cette localité de 35 000 habitants. Des tirs d'armes lourdes et légères étaient encore signalés ce matin, notamment vers Kamandi Port. Située à 130 km au nord de Goma, cette localité est stratégique puisqu'elle ouvre un accès vers la cité lacustre de Kyaviyonge dans le territoire de Beni. Par ailleurs, le M23, on le rappel soutenu par le Rwanda, a également progressé dans le territoire de Walikale, toujours au nord Kivu, autour de la cité de Pinga. Ces combats interviennent alors qu'un cessez-le-feu est toujours en cours et que les négociations semblent avancer entre les experts de Kinshasa et de Kigali dans le cadre du processus de Luanda. Le 31 octobre, les négociateurs se sont mis d'accord sur un plan de neutralisation des FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Mais Patient Ligodi, un optimisme prudent reste de mise.
Les experts congolais et rwandais spécialisés dans les questions de défense ont reçu de la facilitation une proposition de concept des opérations. Ce document stratégique prend en compte les points de vue des deux parties sur leurs engagements respectifs. Après analyse, ces délégués ont adopté par consensus le document qualifié d'important pour l'opérationnalisation du plan harmonisé. Ces plans visent la neutralisation des FDLR et le retrait des forces rwandaises. Une avancée majeure, mais attention, tout n'est pas encore joué. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays doivent encore approuver le document. La prochaine session ministérielle est prévue le 16 novembre à Luanda. Cependant, la facilitation reste prudente. Par le passé, des documents adoptés par les experts des deux parties ont été rejetés en session ministérielle en raison d'interprétations divergentes. Par exemple, Kinshasa entend par lever des mesures défensives le retrait des soldats rwandais du territoire congolais, une présence que Kigali continue de nier. Parmi les avancées notables, les experts ont validé la composition tripartite du MVAR, le mécanisme de vérification ad hoc renforcé. C'est ce mécanisme qui sera chargé de vérifier la véracité des accusations mutuelles d'agression et d'attaque. Ce mécanisme, dirigé par l'Angola, intègre des officiers de liaison de la RDC et du Rwanda. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Et les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC devraient donc se rencontrer en Angola le 16 novembre prochain. C'est une grande déception pour de nombreux pays du Sud. La COP16 biodiversité s'est achevée en eau de boudin hier à Cali, en Colombie, alors que les pays africains et le Brésil attendaient un accord sur le financement d'un fonds pour la biodiversité et la protection de la nature. Après une nuit entière de négociations, la présidente de la COP a constaté au matin que la majorité des participants avaient quitté leur siège pour attraper leurs avions. Les débats ont donc été suspendus et ne sont pas prêts de reprendre. Niki Kigunya, négociateur en chef de la RDC, dénonce le manque de volonté politique des pays industrialisés.
Les documents contenaient nos revendications. Il y avait bien sûr marqué la création d'un fonds tel que nous l'avons sollicité, qui soit sous l'autorité et le contrôle de la COP. C'était un document de compromis qui avait été produit. Donc pour nous, on savait que comme c'est un document de compromis, tout le monde a été consulté. Donc pour nous, on pensait qu'on allait directement l'adopter puisque tout le monde a été consulté. Mais nous avons été surpris de voir que les autres voulaient encore qu'on leur donne des temps, tout ça. En dernière minute, ils n'ont pas voulu adopter les documents, ce qui prouve effectivement qu'ils n'étaient pas d'accord malgré les consultations qu'on a faites. Ça montre déjà de la mauvaise foi. Malheureusement, les documents n'ont pas été adoptés.
Qui, en fait, parmi les pays industrialisés, selon vous, a le plus bloqué?
Bon, on sait que généralement, l'Union européenne ne veulent pas de ces ponts-là. Mais bon, c'est ça les négociations, hein. Nous sommes toujours persévérés et nous allons persévérer pour pouvoir obtenir ce que nous voulons.
Des propos recueillis par Stéphanie Schuller. Et sur le continent, les conséquences du changement climatique sont pourtant chaque jour un peu plus visibles, sans pour autant beaucoup mobiliser. Et c'est dans ce contexte que se tenait hier au Sénégal la 4e édition de la Marche des femmes pour le climat à Dakar. C'est un reportage signé Gwendal Lavina.
Leurs slogans se font difficilement entendre au milieu de la circulation. Elles sont pourtant une centaine de femmes à s'être donné rendez-vous pour réclamer la fin de l'inaction climatique. Après la COP biodiversité et avant la COP sur les changements climatiques, Cher Niafaï, venue de Mbour, ne cache pas sa colère.
Il y a des discussions mais rien ne change. C'est comme un avion qui est prêt à décoller, qui est toujours sur la piste et qui ne décolle jamais. Ils dépensent des milliards pour faire des discours et laisser les pays impactés par le réchauffement climatique.
Elle réclame notamment le versement des fonds sur les pertes et préjudices actés lors de la COP28 l'an dernier.
Les femmes, nous, on a plein de projets, mais on n'a pas accès au financement. Alors, si nous dédommager, on va faire beaucoup de réparations parce qu'il y a beaucoup de dégâts.
Radi Faye est présidente de l'association Femmes Développement et Protection de l'Environnement de Soum, à 130 km de la capitale. Elle est venue chercher du soutien.
La commune de Soum compte plus de 2000 habitants. Mais en 2015, on a vu que l'eau a été salinisée. On ne comprend pas ce qui se passe. Et jusqu'à présent, l'État n'a rien fait. On est abandonné par les dirigeants.
S'entraider entre femmes, une nécessité, car ce sont elles qui ont les solutions, insiste Meyram Sy, membre de Jeunes Volontaires pour l'environnement.
Il faut qu'elle montre aujourd'hui, elle construise des communautés très résilientes, qu'elles ont des solutions qui peuvent changer les choses. Donc pour cela, il faut qu'on élève leur voix, on puisse les écouter.
Et justement, elles promettent de continuer à se mobiliser pour se faire entendre. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Les attaques sanglantes contre des civils se multiplient au Soudan après un an et demi de guerre entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise. Les populations paient toujours un lourd tribut. Les massacres sont particulièrement intenses dans l'état d'Al Jazeera, dans l'ouest du pays. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées par les FSR ces derniers jours. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit atterré par ces violences. Écoutez Stéphane Dujarric, le porte-parole d'Antonio Guterres, joint au téléphone par Pierre Firsion.
Le secrétaire général a condamné extrêmement fermement les attaques que nous avons vues de la part des FSR dans l'état de Al Jazeera. Et tout ça intervient dans un contexte d'une escalade de la violence au Soudan. Et le prix payé par les civils est franchement intolérable. Nous sommes vraiment consternés par les informations que nous recevons, non seulement sur les civils tués, les détenus, les déplacés, mais des horribles actes de violence sexuelle contre les femmes, contre des filles, des pillages de maisons, des pillages de marchés, des incendies de fermes. Ce qui, il faut être clair, tous ces actes peuvent constituer non seulement des graves violations de droits humanitaires, mais aussi de droits de l'homme, et il faut que ces auteurs des violations soient aussi tenus pour responsables dans l'avenir.
Stéphane Dujarric, porte-parole d'Antonio Guterres. Hier, ce sont au moins 12 personnes qui ont été tuées, cette fois au nord de la ville de Koutoum, dans l'ouest du Soudan, par des tirs d'artillerie des paramilitaires. Au Tchad, les candidats ont jusqu'à ce dimanche soir, minuit, pour déposer leur candidature aux élections législatives et locales du 29 décembre prochain. Mais malgré deux prolongations successives, ces scrutins ne suscitent qu'un très faible engouement, ce qui inquiète la société civile. N'Djamena, correspondance, Carole Valade.
Ce faible engouement s'explique notamment par le montant de la caution par candidat. Pour déposer une liste au communal, par exemple, 18 sièges, un parti doit débourser 3 600 000 francs, soit environ 5 500 euros, alors que la subvention au parti récemment débloquée par le président s'élève à 3 millions, soit environ 4 500 euros. Tahir Hassan, rapporteur général de l'Agence nationale de gestion des élections.
Que ce soit les élections locales, communales et provinciales, et que ce soit les élections législatives, nous avons enregistré des candidatures. Dans toutes les circonscriptions du pays, il y a au moins un parti politique qui a positionné ses candidats.
La société civile craint que seul le MPS, principal soutien du président, soit en mesure d'assurer financièrement une présence sur l'ensemble du territoire. Kombo Ouzibé, rapporteur général de l'Observatoire des associations sur le processus électoral au Tchad.
On va se retrouver dans cette configuration-là. Dans la plupart des circonscriptions où il y a des sièges à briguer, il y aura le MPS seul, sans adversaire en face. Et donc, ça perdra le goût et la couleur d'une élection parfaite.
Les candidatures indépendantes sont finalement interdites. Le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra a choisi de boycotter ces scrutins, de même que l'opposition dite radicale réunie au sein du GCAP. Carole Valade, N'Djamena, RFI.
Le Mali pénalise désormais la pratique de l'homosexualité. Le Conseil national de transition, l'organe législatif du pays, a adopté en fin de semaine un texte visant à interdire la pratique, mais aussi la promotion de l'amour entre deux personnes du même sexe. Les détails de la loi ne sont eux pas encore connus. Correspondance régionale, Serge Daniel.
Les projets de code pénal et le code de procédure pénale où figure la pénalisation de l'homosexualité au Mali ont été adoptés par les membres du Conseil national de transition à 132 voix pour et une contre. Commentant la nouvelle, le ministre malien de la Justice a affirmé devant la presse, je cite, « Nous n'accepterons pas que nos coutumes et nos valeurs soient violées par des personnes venues d'ailleurs ». Fin de citation. Dans ses propos, le ministre Mamadou Kassogué s'est voulu plus précis, je cite encore, « Toute personne s'adonnant à la pratique de l'homosexualité en faisant sa promotion ou son apologie sera poursuivie ». Fin de citation. La presse n'avait pas pu ce samedi se procurer le nouveau code pénal dans lequel figure cette interdiction de l'homosexualité sur le territoire national. Les détails exacts des peines ne sont donc pas encore connus. Selon une très bonne source judiciaire malienne, en réalité, juridiquement, dans le nouveau code pénal, l'homosexualité n'est pas encore érigée en infraction autonome. La raison est simple, poursuit notre interlocuteur, le Mali n'est pas encore sorti des différents traités et pactes qui protègent les droits civiques.
Serge Daniel, la Mauritanie dit atteindre un seuil critique en raison des flux migratoires qui passent sur son sol pour se rendre vers l'Europe. En début de semaine, le ministre mauritanien de la Défense, Hanena Ould Sidi, a appelé à plus de coopération avec l'Europe. Magali Lagrange.
La Mauritanie reste un pays de transit pour de nombreux ressortissants d'Afrique de l'Ouest, avec cette année une hausse significative du nombre de migrants qui cherchent à emprunter la route de l'Atlantique pour rallier les Canaries, des départs qui se font aussi du Sénégal ou de Gambie, par exemple. Le nombre de débarquements en Mauritanie a doublé entre 2023 et 2024. Mi-octobre, l'archipel espagnol avait enregistré plus de 33 000 arrivées par la mer, contre 23 000 sur la même période l'an dernier. Face à cette situation, Nouakchott souhaite coopérer davantage avec l'Espagne. L'Espagne et l'Europe en général, affirme le ministre mauritanien de la Défense. En mars, une déclaration conjointe a été signée entre la Mauritanie et l'Union européenne pour renforcer le partenariat sur les migrations. La Mauritanie est par ailleurs une terre d'asile pour de nombreux réfugiés. Ce ne sont pas des migrants, précise une source humanitaire. Le HCR recense 275 000 réfugiés et demandeurs d'asile dans le pays. La région du Haut-Charguy, à la frontière avec le Mali, dans l'Est, accueille des réfugiés maliens en grande partie qui fuient la situation humanitaire et sécuritaire dans leur pays. Le camp de Mbéra est saturé. Les nouveaux arrivants s'installent désormais à l'extérieur.
Magali Lagrange. À Maurice, la décision des autorités vendredi de couper les réseaux sociaux en pleine campagne électorale a provoqué une levée de boucliers. Cette censure devait initialement se poursuivre jusqu'au lendemain des élections législatives du 10 novembre. Mais face aux nombreuses protestations, le gouvernement a fait marche arrière. Pour la population, le mal est fait, car cet épisode sans précédent sur l'île a laissé un goût amer aux Mauriciens. Écoutez le sujet depuis Port-Louis d'Abdoulaye Rally.
Le gouvernement mauricien invoque des raisons de sécurité pour justifier le blocage des réseaux sociaux, mais la population y voit une manœuvre politique intervenue, qui plus est, en pleine campagne électorale. Laura Jaimangal, directrice de Transparency Mauritius, regrette une atteinte aux droits des citoyens.
Les radios privées ont utilisé les réseaux sociaux pour faire des débats entre les candidats. Donc ça aide la population à faire un choix éclairé de qui vont aller voter et venir leur enlever ça soudainement. C'est un peu venir affecter leurs droits civiques.
Prévu jusqu'au 11 novembre, la censure a été levée hier après-midi. Jean-Luc Moutoussamy, directeur de Média Expertise, salue la retenue exemplaire de la population mauricienne.
Il a fallu un peu plus de 24 heures pour que la décision soit changée. Au final, la leçon que les Mauriciens en tirent, ils peuvent faire les choses dans la paix. Et maintenant, les élections arrivent et nous verrons quelle sera l'issue de ce scrutin.
Pour de nombreux observateurs, le gouvernement sortant a commis une erreur majeure qui pourrait peser lourd dans les urnes le 10 novembre. Abdoulaye Rally, Port-Louis, RFI.
Et on termine ce journal à 12h44 en temps universel avec du football. C'est le choc du week-end en Angleterre. À Manchester, United reçoit Chelsea. Les Blues de Chelsea pourraient intégrer le Big Four en cas de victoire. Ils s'appuient sur le phénomène anglais Cole Palmer, mais aussi sur leur avant-centre Nicolas Jackson. Arrivé à Londres en 2023, l'international sénégalais est en train d'y prendre une autre dimension. Victor Missistrano.
Il faut se mettre dans la tête qu'il peut gagner le Ballon d'Or. C'est ce que vient de déclarer Kalidou Koulibaly au sujet de son coéquipier en sélection. Le défenseur des Lions se dit persuadé que Nicolas Jackson va marquer l'histoire du Sénégal comme Sadio Mané. Rien que ça, auteur de 6 buts et 3 passes en 9 matchs, l'attaquant de 23 ans est en train de passer un cap sous les ordres d'Enzo Maresca.
Nico nous aide, pas seulement sur le plan statistique, mais aussi dans la façon dont nous voulons jouer. On est très content de lui, on essaie de le faire progresser et de travailler sur lui depuis le début.
Je crois que dans 2-3 ans, il sera l'un des meilleurs attaquants en Europe.
Le journaliste Yoro Mangara suit Nicolas Jackson depuis ses débuts à Casasport au Sénégal et il n'est pas surpris de le voir s'imposer à Chelsea.
Il a fait mieux qu'un certain Didier Drogba lors de sa première saison avec les Blues de Chelsea. Il fallait quand même qu'il gomme certaines lacunes, c'est-à-dire qu'il fasse un travail devant le but. Il démarrait avec une vitesse grand V. Il fallait qu'il apprenne à ralentir au moment du dernier geste, à être un peu plus relâché.
Relâché, comme sur son but face à Newcastle le week-end dernier, Nicolas Jackson serait bien inspiré de marquer dans le théâtre des rêves afin de mettre fin au cauchemar des Blues qui n'y ont plus gagné depuis 2013.
Victor Missistrano, Manchester United, Chelsea, coup d'envoi 16h30, temps universel. Afrique Midi, c'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous, il est 12h46 en TU et on vous emmène jusqu'à 13h.
Afrique Midi, Victor Moria.
Avec à suivre les chemins d'écriture de Tirthankar Chanda et le deuxième roman d'Ayana Matisse qui nous parle des combats des Afro-Américains pour la liberté et la dignité. Et puis l'Afrique en marche, Frédéric Gara, la mode et le handicap à l'honneur à Abidjan. Et enfin 100% création, rencontre avec le styliste burkinabé Issa Sorogo alias Sorobis. Bonjour Tirthankar Chanda.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Au programme de votre chronique ce dimanche, une star montante de la littérature américaine.
Elle s'appelle Ayana Matisse. Matisse s'est fait connaître en publiant en 2012 son premier roman, Les 12 tribus d'Ati. C'est un récit épique sur la migration des Africains américains qui a commencé dans les années 1920 avec 6 millions d'hommes et de femmes fuyant le Sud où les lois Jim Crow régissaient la vie au quotidien. Ce roman qui mêle l'histoire, la mythologie et des combats contemporains des Africains américains a connu un immense succès, comme en témoigne sa sélection en 2013 dans le book club d'Oprah Winfrey, la prêtresse de la littérature populaire aux États-Unis. Au dire de l'auteur, le succès de ce premier roman a été pour elle enivrant, mais aussi handicapant.
Il est vrai que le succès entraîne parfois des répercussions négatives, Tirthankar.
Ceci a été en effet le cas d'Ayana Matisse. Le succès l'a empêchée d'écrire pendant plusieurs années avant qu'elle ne renoue avec l'écriture avec son second roman publié en 2022, soit 10 ans après la parution du premier opus. Ce nouveau roman vient de paraître en traduction française cet automne sous le titre « Les égarés ». Il s'agit d'un livre de maturité sous la plume d'une auteure au sommet de son art, comme l'atteste le passage que nous allons écouter, lecture par Ayana Matisse.
Toussaint Wright arriva dans Ephraim Avenue avec un sac à dos sur l'épaule et une entaille sanglante sur la joue. Il avait 13 ans. 2 ans plus tôt, un incendie avait ravagé le 248 d'Ephraim Avenue où il vivait. Le feu avait détruit pratiquement tout ce qu'il aimait. Depuis, Toussaint était passé par un bon nombre de foyers, des centres d'hébergement, des familles d'accueil, le presbytère d'une femme pasteur qu'il connaissait, mais il finissait toujours par s'enfuir. Il resta un long moment dans Ephraim Avenue, regardant les feuilles jaunies tomber du chêne.
Toussaint, Ephraim Avenue, difficile de ne pas être sensible à la symbolique des noms propres dans ce passage.
L'extrait que nous venons d'écouter fourmille en effet de noms. Le roman s'ouvre sur le nom de Toussaint. Ce dernier est l'un des principaux protagonistes du roman. Adolescent sans abri, Toussaint est l'un des égarés qu'évoque le titre du roman. Ce roman n'est pas sans rappeler Toussaint Louverture, le général haïtien qui défia la formidable armée de Napoléon. Ce n'est sans doute pas accidentel si le roman s'ouvre sur le nom de ce révolutionnaire d'Haïti, pays où l'esclave noir se mit debout pour la première fois comme l'a écrit Aimé Césaire. Ayana Matisse.
J'aime parsemer le début de mes romans de noms propres, ce qui permet de camper le récit d'entrée de jeu. Ces repères sont importants pour le lecteur, qui, en pénétrant dans un livre, quitte le royaume de silence pour entrer dans un monde bruissant de voix qui se parlent, s'entrecroisent. Pour ne pas se perdre, il a besoin de noms propres, qui permettent de distinguer les personnages les uns des autres. Il a besoin de noms de rues, de chiffres, autant d'appuis tangibles auxquels il peut s'accrocher, tout en prenant intellectuellement possession du monde que nous, les écrivains, nous construisons. Pour lui.
Dans le second volet de cette chronique, dimanche prochain, nous reviendrons sur l'histoire que raconte Ayana Matisse dans Les Égarés, sur ses personnages hauts en couleur et en colère, sur l'écriture cathartique de cette auteure afro-américaine particulièrement talentueuse que la critique américaine a qualifiée d'héritière de la grande Toni Morrison.
Merci Thiers Tankard. Chanda, Les Égarés par Ayana Matisse, c'est aux éditions Gallmeister.
L'Afrique en marche.
L'Afrique en marche.
Et on retrouve notre chronique sur l'Afrique positive pour cette nouvelle saison. Chaque dimanche, RFI vous propose de découvrir et de mettre en valeur des initiatives gagnantes du continent. Une entreprise innovante, une idée qui mérite d'être relayée, un projet auquel nous pouvons donner un coup de pouce. Aujourd'hui, et alors que le monde a été enthousiasmé cet été par les Jeux Paralympiques de Paris, pourquoi ne pas prolonger cette inclusion dans le monde de la mode? C'est le projet à Abidjan de l'association Les Amis du Cœur qui, pour la deuxième fois, le 14 novembre prochain à Abidjan, organise un défilé de mode, le Handicap Fashion Show. 10 mannequins valides et 10 mannequins handicapés présenteront ensemble ce qui se fait de plus beau en matière de mode ivoirienne. Frédéric Gard.
Le Handicap Fashion Show d'Abidjan, c'est un rendez-vous festif qui conjugue haute couture et handicap. Un défilé de mode ouvert à tous pour casser les a priori et les regards négatifs de certains sur les personnes souffrant de paralysie, d'un membre amputé, d'albinisme ou encore d'autisme.
C'est un peu complexe. Parfois, on vous traite d'handicapé, on se moque de vous, on vous aime. C'est vraiment pas évident, la vie d'une personne en situation de handicap. Se faire accepter, c'est compliqué.
Celle qui nous explique son quotidien, c'est Nuella, chanteuse originaire de Yopougon, organisatrice de ce défilé. Elle-même a souffert de cette stigmatisation. Loin de la décourager, cela l'a motivée à faire bouger les choses, entre autres avec son association Les Amis du Cœur.
Ce qu'on ne doit pas faire, c'est vraiment abandonner, dire non, rien ne se fait et donc on laisse. Non, on doit se faire entendre. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on ne doit pas lâcher. À force de se faire voir, à force de se faire entendre, c'est ainsi que l'inclusion va vraiment se faire et montrer aux gens qu'on est handicapé ou pas handicapé, tout le monde a le droit d'exister.
Exister et se montrer comme tout un chacun et travailler comme n'importe qui, car au-delà de ce Handicap Fashion Show, le projet est de former ses participants handicapés au métier de la mode, mannequinat, couture, maquillage ou coiffure. C'est pour cela que des stylistes réputés en Côte d'Ivoire comme Reda Fawaz ou des coachs en mannequinat comme Maître Kasséré ont tout de suite adhéré au projet de Nuella pour prodiguer des masterclass. Maître Kasséré.
J'ai demandé à celle qui était en fauteuil roulant de faire un premier test. Et je vous assure que quand elle est montée sur la scène avec sa chaise roulante, mais c'était extraordinaire, c'était émouvant en fait. On pouvait entendre le public qui était émerveillé de voir pour une première fois des personnes en situation de handicap faire un défilé. On a vu le public qui faisait des photos avec ces mannequins-là, c'était extraordinaire.
L'une de celles qui s'épanouit dans ce rôle de mannequin et qui est par ailleurs maquilleuse, c'est Yaba Zalissa Imuru.
Tout à coup comme ça, tout a basculé, je me suis retrouvée dans un fauteuil. D'abord je me détestais, je ne voulais plus vivre.
Il y a 10 ans, cette jeune femme de 31 ans a été clouée dans un fauteuil roulant à cause d'une drépanocytose mal soignée. Un handicap qui n'a pas empêché Yaba d'être acclamée lors du défilé de l'année dernière.
C'était vraiment merveilleux, j'ai pas de mots. Parce que les personnes en situation de handicap ont l'habitude de se cacher. Ils s'attendaient pas à voir une personne aussi belle que je suis, voilà. Après le défilé, j'ai dit « Ah, donc moi aussi, je vais faire quelque chose. Ah. » Tu vois, on va déclencher un truc qui va apporter plein de courage aux autres. Ils vont vouloir aussi se montrer aussi. Et c'est ça, c'est le combat qui est là.
Un combat et une inclusion des handicapés africains qui passent aussi par un emploi, souvent rejeté du monde du travail. La motivation des handicapés est pourtant souvent démultipliée pour encore mieux s'intégrer. De la difficulté peut naître parfois une surmotivation. Hervé Bernard est directeur de l'inclusion à l'ONG Handicap International.
On ne veut pas non plus construire un autre stigma et un autre biais qui serait l'ultra-positivité ou le super-héros handicapé. On fait très attention aussi à ça. Mais par contre, c'est vrai que toute personne qui galère et qui a du mal à trouver un travail, quand on lui tend la main et qu'on l'accompagne, en général, c'est des personnes qui en sont reconnaissants et qui saisissent ces chances. Et voilà, donc après, ça reste des personnes comme les autres. Et il peut aussi y avoir des personnes qui n'ont pas trouvé le bon emploi ou pour qui ça ne correspond pas.
Pas d'angélisme donc en matière de handicap, mais un réel enjeu en matière d'inclusion sociale et professionnelle. En 2014, on estimait à 450 000 le nombre de personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Selon les Nations Unies, elles sont plus de 80 millions sur le continent.
Merci Frédéric Gara. Le Handicap Fashion Show, ce sera donc le jeudi 14 novembre à 19h à la résidence de l'ambassade des Pays-Bas à Abidjan. « 100% création » ce dimanche, rencontre avec un styliste dont le parcours mêle tradition et modernité, Issa Sorogo alias Sorobis. Créateur emblématique de mode, il se consacre à la valorisation du textile africain en mettant en lumière les artisans locaux et son héritage culturel. Malgré une forte présence à New York, Sorobis s'efforce de porter au plus haut l'authenticité africaine sur la scène internationale, tout en soutenant des projets sociaux et économiques en Afrique de l'Ouest. Maria Afonso.
La création, c'est ma source de vie. C'est un don que Dieu ne donne pas à tout le monde. C'est un bonheur abstrait, certes, mais ça me rend accompli.
Issa Sorogo, alias Sorobis, styliste designer de la marque Sorobis.
Sorogo qui représente mon nom, et Bis pour dire junior parce que je prends la relève du père. Dès que je suis arrivé aux États-Unis, les Américains ont commencé à dire Sorogo Bis. Oh, c'est trop long. Ils ont dit non, Sorobis.
Sorobis est né en Côte d'Ivoire d'un père ivoirien et burkinabé et d'une mère nigériane. Son père tailleur habillait déjà des personnalités. Avec ce riche héritage, il s'est naturellement orienté vers le monde de la mode, mais avec une approche bien à lui. Sorobis croit à la nécessité de protéger les textiles africains contre les imitations venues d'Asie. Aujourd'hui basé à New York, il réalise que sa voix résonne encore plus fort sur la scène internationale.
Les Américains noirs et même les Américains caucasiens, ils adorent. Il faut des gens comme nous qui soyons sur place et qui voyons le besoin et qui mettions à la disponibilité de ces gens-là ce tissu qui est fait de façon authentique en Afrique. Il y a une différence entre l'original et la copie. Pour ceux qui ne connaissent pas, dès lors où les couleurs sont là, que ça vient de l'Asie ou de l'Inde ou quoi, ils se disent, ouais, il y a un peu de motif africain, c'est bon. Alors que non, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que tout ça, c'est protégé par l'Organisation Internationale du Commerce. Si on le fait pas, c'est des emplois qui sont pris. Donc, dans une ville comme New York, qui est quand même le carrefour du monde, ça nous permet d'avoir un œil et savoir où mettre l'accent pour vraiment bien faire la promotion de ce textile-là et le mettre à la disposition des gens qui sont vraiment intéressés. Ça crée une certaine limite par rapport aux copies qui viennent de Chine ou de l'Inde.
Sorobis est aussi engagé socialement à travers la mode. Il travaille avec des artisans locaux, des coopératives de femmes qui, comme lui, sont ancrées dans cette tradition textile.
On a la chance qu'en Afrique, il y a beaucoup d'artisans, surtout au Burkina ou en Côte d'Ivoire. À la base, c'est eux que je veux mettre en valeur. Au-delà de mon travail de créateur, ce sont des enfants abandonnés, des femmes qui sont veuves. C'est tout ce qu'elles font pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est des gens qui travaillent avec beaucoup de qualité. Nous leur donnons une force économique quand nous arrivons. On essaie de les motiver en travaillant avec eux, en disant « Tiens, voilà la photo de ce que tu as fait, le monde entier a vu. » Et du coup, c'est comme ça que ça marche.
Retrouvez l'univers de Sorobis sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
Et 100% création est également sur les réseaux sociaux. Retrouvez Maria Afonso et Sorobis en vidéo sur Instagram et Facebook. Et on termine cette demi-heure d'information africaine en musique avec Harmonize et Dar es Salaam.
Ilo jiji bwana kuishi ujipange, dada ukitaka gari ni lazima urange. Hayo masai wana namba za mange, wengine mtasema ni akili za bange. Ama nende mbea, tulia tanipokea, ila dada siwezi sogea, kazi kubeti na umbea. Arusha, naona kama tajirusha. Bomboko, can I move to the moshi? Vipi mimoshi, na iwaza sana Dodoma.
Midi 59, ici à, en temps universel, 13h59, ici à Paris. Dans quelques secondes, vous retrouvez un nouveau journal. Afrique Midi, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci à Mickaël Gonsalves, à Cécile Périllard et à Karine Franck. Et c'était Dar es Salaam de Harmonize dans vos oreilles.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Ce dimanche, de l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande et de l'Islande à Porto Rico, on va faire le tour du monde, en prendre le pouls et les bonnes vibrations. On s'intéressera aux origines de la musique country et à un micro-genre aussi, l'hyperpop. Il va y avoir du sport.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
BPM.